le matin.
Dernier jour de travail de la semaine. Bon vendredi, les amis. Côté météo, on va regarder ce qui se passe. C'est quoi les conditions actuelles? C'est 14 degrés. Généralement nuageux pour aujourd'hui. Des risques d'orage cet après-midi, maximum de 22. Quelques petites percées de soleil par-ci et par-là d'ici ce soir. Partiellement nuageux pour ce qui est de ce soir, avec encore là des risques d'orage, minimum de 13. Demain, samedi, ça pourrait être des nuages en matinée, avec encore là des risques d'orage en après-midi, maximum de 22. Avec l'indice humidex, ça pourrait être une température ressentie demain de 25. Et dimanche, ce sera des averses avec un maximum de 18 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021.
Sur la route à la date, ça roule super bien.
Ça roule.
Les news 102.1.
6h28, on est le 5 juin 2026. Tu nous apprends quoi ce matin?
Ça continue de brasser au pénitencier de Donnacona. On se parlait hier d'un meurtre survenu mercredi soir. Et là, il y a un autre détenu qui a été violemment attaqué hier soir. Les gestes qui se seraient même produits pas mal à la même place de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire dans le gym de la prison. Selon les infos du journal, le détenu qui aurait été agressé à la gorge, on ne craignait pas pour sa vie. Le président québécois du syndicat des agents correctionnels, Mike Bolduc, qui lance que c'est carrément du jamais vu, que ça comme plus de bon sens ce qui se passe actuellement.
Est-ce qu'on doit intervenir plus qu'on intervient là actuellement? Ça nous coûte extrêmement cher, là, garder ces tout croches-là en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Jeff? Parce que tu peux pas les laisser tout le temps dans leur cellule.
Ben non.
Faut que ces gars-là puissent aller faire...
Attaques se passent toujours au gym, au pénitentiaire de Donnacona, presque toujours. En tout cas, les dernières se sont passées là.
Puis tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. Moi, là, des gars dans un gym, dans un pénitencier, je trouve que ça n'a pas sa place. Je suis peut-être un peu trop vieux jeu, mais les faire grossir en dedans, puisque pour qu'une fois, quand ils sortent, ils soient plus gros que la population normale et qu'ils intimident, ça me fait suer un peu. Je préférerais qu'ils puissent aller dans la cour puis faire un petit circuit là, pour faire un peu de cardio. Puis merci, bonsoir. Commencer à faire des gros poids pour être plus gros possible, pour être intimidant en dedans.
Ben, je te dirais même que ils peuvent devenir encore plus forts et violents envers nos agents correctionnels.
Ben, il est un peu là, mon point. Est-ce qu'on peut intervenir plus? Peut-être plus de sécurité, mais en même temps, est-ce que ces gens-là, en se faisant dessus, ils nous rendent un peu service? La réponse est oui, là.
Oui, comment je dirais?
Pour les droits de l'homme, t'as pas le choix, faut que tu veilles à leur sécurité, là. Mais tu sais, à un moment donné, quand les gars veulent se taper dessus...
Ben c'est ça, je veux faire attention à ce que je vais dire, là, mais c'est comme le processus de sélection naturelle. Là.
Exactement.
Puis de ce que je comprends, oui, compte tenu qu'il y a beaucoup de violence, ben disons que les agents carcéraux y interviennent peut-être pas au premier événement.
Peut-être. On va aller voir le policier officiel?
Ben pour le gym, moi je pense que mener question de santé mentale, si ces gars-là
t'es
font...
fait marcher dehors.
Ouais, mais je pense
que... Mais ça va toi au gym, Max?
Ben non, mais je pense que si t'enlèves le gym à ces gars-là, je pense que ça pourrait virer que ça se tape encore plus ça y est.
Comment ça va toi ton gym?
C'est quoi le rapport?
Non, mais comment ça va ton gym?
Ben je vais pas au gym, moi.
Tu marches?
Oui.
T'es en santé? Ben, t'es en bonne forme physique.
Ben
là,
oui.
Non, mais en tout cas, je peux me tromper, mais moi, je pense que si tu leur enlèves le gym puis te pousser de la fonte un peu, ça se peut qu'ils passent leur frustration ailleurs. Là.
Ouais, mais ils peuvent marcher, ils peuvent aller courir dehors sans aucun problème. Là. Moi, de voir que ces gars-là peuvent prendre 30, 40, 50 livres de muscle en prison pour être intimidant à l'égard des agents correctionnels, j'ai un peu plus de misère. De voir que ces gars-là peuvent grossir, puis après ça sortir, puis aller dans les bars, puis commencer à faire leur intimidation, puis vendre encore des...
Ah, ça, on le voit le même, c'est sûr. C'est juste que moi, je vois l'aspect santé puis santé mentale. J'avais pas pensé à cet aspect-là.
Peut-être moi qui est un peu moins empathique, là, mais n'en demeure pas moins que les Arab Power, c'est pas Greenpeace, là.
Non.
Tu comprends? C'est des gens ultra violents. C'est des gens qui sont arrivés ici, qui ont fui un pays qui était hyper violent pour arriver ici puis refaire la même maudite affaire. Les Arab Power, c'est carrément ça.
T'sais, les meurtres qui se passent en prison, là, ils égorgent le monde.
Ah ouais, c'est
ben, c'est d'une cruauté, là.
Parlant d'agression en prison, l'ex-skieur acrobatique Dominique Laroche, qui aurait été la cible d'une agression alors qu'il était détenu à l'établissement de détention de Robertval, c'est selon les accusations qui ont été déposées en cour hier. Trois hommes qui sont accusés de voies de fait armées relativement à un événement qui serait survenu le 14 mars dernier à l'intérieur de la prison. Les circonstances exactes qui demeurent inconnues, on ne sait pas si Laroche a subi des blessures, mais c'est quelque chose qui est sorti dans l'actualité hier.
Avez-vous reçu l'ex-conjoint témoin de Dominique Laroche hier.
Ouais, dans l'open mic, il nous a raconté pas mal toute l'histoire là, du moment où les policiers cognent à la porte puis procèdent à l'arrestation de Dominique Laroche.
Ouais. Juste dire, avant qu'on continue, là, on peut pas faire aucun lien entre sa conjointe Dominique Laroche et la victime.
Exact. Elle nous a raconté donc le procès, comment elle a vécu tout ça, puis le fait qu'au début, t'es tellement tout embrouillé dans ta tête, tu sais pas quoi croire. Puis là, à un moment donné, il y a des preuves qui sont présentées, que là, toi, tu fais des liens dans ta tête, que tu dis, j'ai pas le choix de le croire.
Parce qu'il aurait agressé cette jeune fille-là pendant des années et des années. Mm. Puis elle ne s'est jamais doutée de rien selon ce qu'elle vous a dit.
Exact.
OK. Puis, est-ce qu'elle a encore des contacts avec Dominique Laroche?
Non.
Aucun contact?
Non. Le maire de Québec, Bruno Marchand...
Le podcast, est-il disponible?
Non. Pour certaines raisons, le podcast n'était pas rendu disponible. Fallait le pogner live.
OK.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, qui quittera demain pour une mission de presque 2 semaines en Europe, va visiter la Belgique et l'Italie dans le but d'amener du monde à Québec avec des événements d'envergure. Dans une tournée médiatique, M. Marchand qui mentionne l'importance d'amener des événements à Québec, d'amener des retombées économiques pour les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Par exemple, en 2029, le maire qui aimerait que le congrès de l'Association internationale des maires francophones et celui de Vélocity se déroulent ici à Québec. La ville qui estime que le premier événement pourrait générer 1 million en retombées économiques et le deuxième jusqu'à 3 millions. Les événements qui s'ajouteraient à plusieurs déjà prévus dans la capitale nationale dans les prochaines années. Il y a les Jeux du Canada, la Coupe Davis, les championnats du monde. Il y a autant hockey féminin que hockey junior. Le maire, le message en fait que Bruno Marchand veut lancer, c'est qu'il veut pas que Québec arrête de vivre là, pendant les travaux pour le tramway. Au contraire, il veut qu'on continue d'amener des événements ici. La prévision des coûts pour le projet de tramway de Québec qui est toujours de 7,6 milliards selon Mobilité Infra Québec. Un porte-parole a indiqué au Journal de Québec que l'estimation actuelle demeure la bonne et intègre déjà les effets de l'inflation, précisant que les bonnes pratiques font en sorte que les facteurs économiques, notamment l'inflation, sont pris en compte. Le maire Marchand de son côté qui mentionne avoir eu des échos à l'effet que ça va être 7,6 milliards et peut-être moins. Ça n'engage pas à ce que ce soit moins, mais un peu comme l'ancien ministre là, j'ai un blanc de mémoire, celui qui est avec nous,
Jean-Yves
Duclos. Lui aussi avait mentionné 7,6 milliards, c'est l'estimation, ça pourrait être un petit peu moins. Le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, qui continue d'être persuadé, lui, que le montant sera plus élevé comme ben du monde.
C'est disponible sur le blvd.fm. Hier, j'ai eu en entrevue dans On en jase René Amilcar, qui est la PDG de Mobilité Infra Québec. C'est elle qui a sauvé le tramway d'Ottawa. Elle est arrivée en 2021, il y avait 104 recommandations d'une enquête indépendante. Elle a fait les 104. Elle a créé 2 autres lignes. Et là, c'est eux, Mobilité Infra-Québec, qui vont tous s'occuper du côté opération du tramway dans le projet. Puis elle m'a répété 4 fois qu'elle ne dépasserait pas le 7,6 milliards. Donc, j'ai dit, on a ça d'enregistrer, Mme Amilcar.
Mais c'est parce que ça dépend comment ça va être comptabilisé.
Exactement.
Tu sais, le 7,6 milliards, autant au Québec qu'au Canada, c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on va devoir emprunter, sur lequel on va devoir payer de l'intérêt. Fait que déjà là, le 7,6 est déjà dépassé. On va devoir casquer la différence.
Mais ça vaut pour tous les projets d'infrastructure, là, ça l'a dit.
Puis là, il va y avoir aussi l'augmentation du coût du matériel. Ce qu'on nous dit, c'est que ça a déjà été prévu, mais parfois, il augmente plus vite qu'on l'avait
prévu. Dans un fonds de prévoyance, en effet. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on va rentrer. C'est comme le fameux 400 millions du centre Vidéotron.
Exact. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous mentionner comme chiffre en 2027. Je suis content que l'opposition officielle à la Ville de Québec gosse un peu l'administration sur les coûts finaux du tramway. Mais on va attendre à 2027 pour être
fixé.
Max.
Le projet du garage Newton pour les autobus électriques du RTC reste sur pause malgré l'enveloppe considérable envoyée par le fédéral à Québec cette semaine. En fait, 203 millions qui auraient pu être investis dans le projet ici à Québec vont aller carrément à Montréal. Cité par Radio-Canada, l'attaché de presse du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charrette, mentionne que cette décision a dû être prise pour éviter de perdre la subvention que nous aurions dû retourner au fédéral, considérant que le projet du garage Newton est encore en évaluation. Il est sur pause. Elle indique que si le choix est fait fait de relancer le garage Newton, l'argent sera rendu disponible de nouveau. La RTC, qui n'avait pas été mise au courant de la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable avant d'être interpellée par Radio-Canada, le chantier qui est sur pause depuis mars 2025 alors que les coûts prévus du projet avaient explosé à près de 650 millions de dollars. Déploiement du dossier santé numérique, contrairement à ce que laisse entendre le gouvernement puis à ce qu'on croyait, là, ça se passe pas bien. Dans le Journal de Québec, on peut lire ce matin que des intervenants craignent pour les patients dans les établissements où le projet pilote a été implanté. Une source va jusqu'à mentionner que c'est dangereux et inefficace. On rapporte que les problèmes se multiplient, notamment avec des erreurs de programmation pour des doses de médicaments potentiellement dangereuses. La docteure Setares Samimi, hémato-oncologue à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, lance qu'il y a une peur chez certains médecins de parler publiquement, mais elle ose le faire. Elle déplore que les retards pour les nouveaux traitements en chimiothérapie s'accumulent, dit qu'on est rendu à environ 4 semaines d'attente. Elle a des collègues qui ont dû envoyer des patients à l'urgence pour qu'ils soient admis et reçoivent leur chimio. De son côté, Radio-Canada nous indique que de nombreux médecins sont épuisés par l'implantation du dossier santé numérique qui serait plus compliqué que prévu. Et bon, il y a des médecins qui estiment que l'impact là, est direct sur les patients. Et je termine avec ça, le niveau du réservoir Kanya-Pisco, le plus grand de tous les réservoirs d'Hydro-Québec, est à 24 % seulement de sa capacité. C'est ce que nous apprend ce matin Radio-Canada, qui mentionne que les stocks d'énergie d'Hydro-Québec n'ont jamais été aussi bas depuis 2005, la situation qui est causée par la sécheresse qui touche le nord de la province. Pour donner une idée, le niveau du réservoir Kanya-Pisco, qui était à 34 % à la même période l'année passée, et déjà, on disait que c'était exceptionnellement bas, c'était par Radio-Canada, le professeur agrégé de génie électrique à l'Université McGill, François Bouffard, lance qu'une question de sécurité énergétique se pose. Chez Hydro-Québec, on explique avoir dû réduire nos exportations sur les marchés de court terme et augmenter nos importations. Et ça, bien évidemment, que ça coûte cher à la société d'État.
Je le répéterai jamais assez, le nucléaire, il y a 19 réacteurs nucléaires au Canada, vous n'entendez jamais parler.
Jamais.
C'est la façon la plus efficace de produire de l'électricité. C'est la façon, je le sais, vous allez vous capoter, mais comme disait l'autre, faites vos propres recherches. Mm-hmm. C'est la façon la plus environnementale de produire de l'électricité. Puis on nous dit que le Québec ne veut pas revenir en arrière, ouais, dans cette décision d'exclure le nucléaire. Par contre, dans le monde entier, c'est la nouvelle façon la plus incroyable de faire de l'électricité. Puis nous, on inonde encore des territoires qui ne nous appartiennent pas nécessairement. On éloigne les animaux, on les ramène proche des villes. Le nucléaire, on n'en aura plus de problème après.
J'ai vu quelque chose de bien dans Charlevoix, puis ça ne concerne pas du tout le nucléaire, puis on ne pourrait pas le faire à grande échelle, mais c'est dans les sentiers boisés, les cabanes qu'il va avoir avec un peu d'électricité, puis toilettes, etc. C'est l'énergie solaire qui produit l'électricité. Ils ont des gros panneaux d'énergie solaire sur le toit.
Puis je pense que l'important, puis c'est peut-être ça l'avenir du Québec, c'est de diversifier notre façon, ouais, de recueillir l'énergie quand elle peut être gratuite comme ça. L'énergie solaire,
ben, exactement,
c'est gratuit, tu attires du soleil. L'énergie éolienne, ben là, il y a un certain coût pour en arriver à pouvoir produire de l'énergie avec l'éolien. Puis souvent, ben, on est perdant dans nos investissements avec l'énergie éolienne. Mais le nucléaire, on va en parler peut-être avec M. Mousseau.
Oui, avec Normand
tantôt,
Mousseau.
Là, il va me répéter la même affaire qu'il m'a dit la dernière fois, mais on n'en aurait plus de problème. Là, on est rendu qu'on regarde le ciel et on espère qu'il pleuve pour pouvoir produire de l'électricité. Simonac, on est rendu où, là?
Non, en effet.
On progresse-tu, tu sais? 6h41, les sports.
Les sports. Sports.
Max, finalement, on a une série entre le Knights de Vegas et la Caroline.
Oui, une mauvaise décision de John Tortorella en troisième période qui a potentiellement coûté le match à son équipe. Tu sais, souvent, on voit les fameux challenges pour quand ton goaler se fait faire de l'obstruction, il y a un but, là, toi, tu dis « Hey, ce but-là de l'équipe adverse est pas bon, puis tu challenges. » Puis si tu l'as, ben il y a pas de but. Si tu l'as pas, il y a un but, puis on te donne un 2 minutes. Hier, on a vu une situation rare. C'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire que les Golden Knights ont scoré un but. L'arbitre a dit « Il y a pas de but. » John Tortorella a dit « Je challenge, il y a un but. » Et il y en avait pas. Fait que non seulement il y a pas eu de but, ben, ça a donné un avantage numérique aux Hurricanes. Et grâce à ça, notamment, les Canes ont été en mesure de forcer une prolongation dans ce match-là et ont finalement gagné en prolongation. Donc, on retourne à Raleigh avec l'égalité 1-1 dans la finale de la Coupe Stanley, série qui va se transporter maintenant à Vegas dès demain 20h. Une bombe qui est tombée hier soir à Détroit. Le capitaine des Red Wings, Dylan Larkin, qui a demandé une transaction. Le centre de 29 ans qui a marqué 34 buts et récolté 67 points en 74 matchs la saison passée. Des rumeurs l'envoient déjà à Vegas. Je commence à être écœuré que tous les bons joueurs aillent là. Mais que voulez-vous? On verra bien.
Montréal, ça pourrait être possible?
Je pense pas qu'il l'échange dans la division.
Non.
Et je serais très, très, très surpris parce que sinon,
parce
ça
que
fait...
Là, Larkin, tu le mets premier centre. Tu peux pas le mettre premier centre à Montréal. Ça serait épouvantable pour Suzuki.
Ben, ça serait one-two punch. Là. Ça serait deux premiers centres. Ça serait parfait, en fait. Là. Mais c'est ça, je tomberais à terre qu'ils l'échangent dans la division. Là, c'est leur capitaine. Mais ce serait sur papier, là, c'est sûr que ce serait incroyable comme acquisition pour Montréal. Fait que peut-être à suivre. C'est ce soir que se déroule la première ronde du repêchage de la LHJMQ à Halifax. Les Remparts qui possèdent pas de choix de premier tour pour l'instant ne parleraient donc que demain à partir du 31e rang. Capitale de Québec, autre série remportée grâce à une victoire de 11-9 hier sur les Jackals du New Jersey au Stade Canac. Place à une série face aux Crushers de l'Acquérier dès ce soir, toujours à Québec. Dans la MLB, victoire de 7-2 des Blue Jays pour clore la série face aux Braves d'Atlanta. Début d'une série face aux Orioles de Baltimore. Aujourd'hui à Toronto. Et dans la Ligue canadienne de football, c'était le premier match des Alouettes en saison régulière hier. Victoire de 30-27 face aux Tiger Cats de Hamilton en ouverture de saison. Donc, le premier match local qui sera disputé vendredi prochain contre Toronto.
Parlant des Remparts, on est officiellement candidat pour la Coupe Memorial en 2028. Ce serait pour le printemps 2028 au Centre Vidéotron. On a-tu des chances de l'avoir?
Ben oui.
Oui, on a des chances, mais il y a quand même quatre équipes en lice, hein? Gatineau, Moncton, puis Terre-Neuve.
Ouais.
Donc, pis... c'est rare, ça arrive autant d'équipes en lice.
Puis là, ce qui est particulier avec les Remparts, c'est que, de façon logique, t'es mieux de foncer cette année.
Ouais.
Parce que t'as un gars comme Maddox Dagenais, déjà là, qui avait des rumeurs qu'il allait peut-être partir cette année. Ouais. Dans deux ans, oublie ça, là. Tu sais, mettons qu'il va être là cette année, là. Ouais. Mais dans deux ans, les Remparts vont déjà avoir perdu une coupe de gars.
Ben parce qu'apparemment, justement, que Penn State a déroulé pas mal d'argent, le tapis rouge, pour Dagenais. Donc, s'il refuse cette année, il refusera pas l'année prochaine.
Ça, tu sais, Meyer qui s'en ouais. vient, lui, il va venir un an, puis après, il va aller... Fait que, tu sais, les Remparts, c'est comme supposé être cette année, finalement, que tu serais supposé foncer. Mais là, c'est parce que si tu reçois la Coupe Memorial, t'as pas le choix de foncer dans deux ans. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
Puis là, la dernière Coupe Memorial qu'on a eue à Québec, c'était en 2015 au centre... C'était au Colisée.
C'était au Colisée, oui.
C'était au Colisée à l'époque. Fait que ça serait la première fois qu'on présenterait la Coupe Memorial au centre Vidéotron. Oui. On a en le spot ça. Pour faire
ben
ça.
Oui. Ben oui. J'avais acheté ma passe, moi, pour la Coupe Memorial en entier en 2015. C'est vraiment plaisant comme événement, là, voir tous les matchs et les... T'es, écoute,
Leon... Tu sais que McDavid était, non?
Non, c'était Leon Draisaitl, Josh Morrissey, qui jouait pour Kelowna, mais c'est les Generals d'Oshawa qui l'avaient emporté avec Michael McCarron comme un de leurs meilleurs joueurs. L'ancien premier choix du Canadien.
Il est rendu où, lui?
Il était rendu avec le Wild du Minnesota.
Ouais.
Il a joué sur le quatrième trio durant les séries. Ça faisait deux ou trois saisons qu'il était à Nashville.
Et lui, on le voyait gros en maudit.
Ben oui, ben, il était gros, c'est ça.
Non, mais dans le sens où on avait l'impression que ça allait être un joueur d'impact chez le Canadien.
Ben, le Canadien pensait avoir avec lui son gros joueur de centre qu'il cherchait depuis des années.
Ouais, il y avait un gros défenseur aussi qui avait passé à Montréal. On le voyait gros, finalement.
Jared Tinordi?
Non, McDonough.
Ryan McDonough, ouais, ça a été échangé pour Scott Gomez. Pas la bonne transaction, ça.
Puis le pire, là, tu regardes ça aujourd'hui, dans le cas de McCarron, là,
ouais.
C'était un bon choix du Canadien en première ronde. Quand tu regardes l'impact qu'il y a aujourd'hui, tu regardes l'impact en général, un choix de fin de première ronde, on voit ça gros passer ces premières rondes. Souvent, les gars font même pas la Ligue nationale.
Mm-hmm.
Fait que tu regardes McCarron, qui a une belle carrière comme joueur de profondeur, c'était un bon choix du Canadien. C'était-tu le meilleur choix possible? Mais... Pour un choix de fin de première ronde, McCarron, ça a bien de l'allure.
Il n'y a pas un choix aussi qui réalisait son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Il était dans la Ligue américaine puis il a fait genre 4-5 buts.
Ryan Pelling.
Ouais, Ryan
Pelling.
Il venait des universités américaines.
Le premier match qu'il a joué, là, c'est quoi, 4-5 buts?
C'est, je pense que c'était 3 buts, puis le but gagnant en tir de barrage.
Ouais, ouais. Ça, ouais, 4, ça ressemble à ça.
4 buts dans le même match. Moi, j'avais la tabarouette. On a Wayne Gretzky à Montréal, finalement. Ouais. Pelling fait encore le plus beau temps là, dans la Ligue nationale, mais c'est pas un joueur.
Ben, c'est un joueur, c'est un gars de troisième trio. Ouais. Il était là-dessus chez les Ducks d'Anaheim cette
quand
année.
C'est ton premier match, 4 buts. Là.
Ben oui. Il a fait ça chez les Flyers de Philadelphie l'année précédente. J'avais vu justement quand j'étais allé au Centre Bell l'année passée. Il était pour les Flyers. Fait que c'est un gars d'utilité. Mais un gars qui a beaucoup de mise en jeu. Ça, les gars se développent, deviennent des joueurs, des bons joueurs de profondeur, mais pas nécessairement des gars d'impact.
Il y a Jean-Marie qui nous écrit, dit « Salut, moi j'ai retiré complètement hydro de ma maison, je me suis mis au solaire, ça m'a coûté environ 28 000 $ et maintenant je suis full autonome. Je fais même de la soudure dans mon garage, 10 panneaux solaires et 10 batteries avec un système d'invention et aucun problème de courant. » Christy, que j'aimerais ça être un taponneux de même.
Ah, moi aussi.
Tu te débarrasses.
Ces gens-là m'impressionnent.
Au Québec. Tu sais, ils disent, ouais, consommez pas trop d'électricité, là. On va en manquer cet hiver. Il fait moins 40. Les moments où tu as besoin d'électricité, là, de chauffage, c'est quand il fait le plus froid. Puis t'es Hydro-Québec, il dit, ouais, faudrait faire attention. Puis vous geler pendant quelques jours. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, c'est par texto.
Ça roule.
Pour nous informer de ce qui se passe,